بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاعي الإسلام. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous a tous donné tawfiq d'être présents dans cette assemblée pour rechercher quelque chose. Nous recherchons quelque chose et Allah veut nous accorder quelque chose. Chaque personne qui a fait le déplacement, qui a décidé de consacrer un peu de temps pour ce mawdou', pour ce sujet, pour ce thème, recherche quelque chose. Et là, je vais vous demander... Pourquoi est-ce que vous êtes venu dans cette assemblée, Mohamed? Pour avoir des bases afin de bien aborder le mois de Ramadan, c'est ça? Pourquoi tu es venu? Pour apprendre quoi? Apprendre à mieux pratiquer, c'est-à-dire précisément mieux vivre le Ramadan. On est d'accord? On prendra un dernier avis. Il y a Ali. Par amour pour le ilm, pour la connaissance religieuse. Maintenant Ali, je te pose une autre question. Qu'est-ce que la connaissance va apporter de plus à ta pratique? Je m'explique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va jeûner 32 jours cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va jeûner 32 ramadan? 32 jours, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prier 30 rakats de tarawih ici? Mais non. Est-ce que quelqu'un va faire 6 namaz, 6 salaf obligatoires? Là, c'est-à-dire qu'on apprenne ou qu'on n'apprenne pas, qu'on recherche la connaissance ou qu'on ne recherche pas la connaissance, le nombre de bonnes actions, le nombre de a'mal ne change pas. Tous les musulmans présents à la réunion à Maurice dans les 5 continents, ils vont jeûner 29 ou 30. Ils vont faire 5 salaf aras par jour. Ils vont faire tarawih ala hasab al madahib. Ils vont faire un certain nombre de rak'at. Mais personne ne va accomplir d'action en plus, d'action zaïd qu'on aura appris dans une assemblée. Donc Ali, qu'est-ce que le ilm? Parce que Ali nous dit quelque chose de très intéressant. Je suis venu pour le ilm shari, pas la connaissance religieuse, pas à moi pour le ilm. Qu'est-ce que le ilm va apporter à ton ramadan? Halla ya Ali. Ajib, quand tu seras dans la tombe, il faudra répondre plus vite aux anges. Pour que l'action soit correcte. On est d'accord? Entièrement d'accord. De toute façon, Ali, on ne peut pas dire qu'il a tort. Pour que l'action soit correcte. Ikhwani fillah, nous allons vivre bientôt, c'est-à-dire dans 3 semaines à peu près, le meilleur mois de notre vie. Et le meilleur mois qui bi'idhnillahi wa bi'fadlillah. Ce n'est pas le meilleur mois de notre vie, je me rattrape. Le meilleur mois de l'année. Et par la grâce d'Allah, le mois de Ramadan se répète tous les ans. On avait essayé d'expliquer un petit peu ça pour le khutbatul jum'ah, mais c'était un peu court. Le hajj, c'est combien de fois par an? Le hajj, c'est comment? Quelle est la fréquence du hajj? Ce qui est obligatoire, c'est une fois dans la vie. Une fois dans la vie. Regardez la hikmah d'Allah Azza wa Jal. Que le Ramadan, bi'idhnillahi wa bi'fadlihi wa karamihi, se répète une fois par an, à raison de 30 ou 29 ou 30 jours de jeûne par an. Ça veut dire que le fait que cette action se répète, c'est que l'être humain en a grandement besoin. C'est que notre, et je pèse mes mots, hein, notre survie spirituelle en dépend. Pourquoi je parle de survie spirituelle? Parce que plus les années avancent, plus il devient difficile et complexe de pratiquer correctement son dîn. Oui ou non? Il devient de plus en plus difficile avec le fitna, avec l'appel vers les péchés, avec la mondialisation, avec tout ce qu'on entend, le discours ambiant, le discours des médias qui nous démoralise un petit peu, qui on va dire qui effraie un peu les gens, qui décourage les gens à bien pratiquer de crainte d'être accusé de rigorisme religieux ou ainsi de suite. Bref, il y a un contexte parasitaire qui nous empêche, qui nous éloigne un petit peu de la pratique. Et le prophète alayhi salatu wasallam avait annoncé qu'à la fin des temps, rester ferme dans sa religion, c'est aussi difficile que de tenir quoi ? Un charbon, une braise ardente au creux de sa main. Chose qui est impossible. La métaphore, elle est puissante. Elle nous parle directement et elle a traversé les siècles. Quand le prophète dit Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ils entendent, ils comprennent le sens. Et c'est un sens qui touche les cœurs. Parce que c'est kalamun nabi, kalamun nabi. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan lil alamin, bénédiction pour nous. On suit cet homme, on a le Jannah. On suit cet homme, Allah nous aime. Qul ati'u Allah wa Rasul. Qul ati'u Allah wa Rasul. Obéir à Allah et obéir à son prophète. Et notre prophète, lorsqu'il cite cette parole, cela nous touche en 2018. Et on réalise qu'effectivement, ce que le prophète avait annoncé, c'était une mu'jiza. Parce qu'à l'époque où il le dit, bil'ax, bien au contraire, tout le monde se concurrence, tout le monde essaie de pratiquer encore plus, d'être les meilleurs sahaba, les meilleurs des croyants. À l'époque où le prophète cite ce hadith. Mais à notre époque, nous le vivons. Et nous le comprenons réellement. Et nous réalisons que du coup, notre pratique de la religion quotidienne, mes prières, ma lecture du Coran, occasionnelle, saisonnière, hebdomadaire peut-être, ou mensuelle au pire, ou qui se limite à Kahf, ou à Yassin, et Tabarak al-Ladhi, ou ma lecture, Wallahu Musta'an, annuelle plutôt. Peut-être ma lecture annuelle, parce que d'un Ramadan à l'autre, peut-être que certains ne complètent pas Khatm al-Qur'an. Wallahu musta'an. On se rend compte qu'aujourd'hui, si je demande, mais je ne peux pas vous demander de me le citer, ce serait par ostentation. Anwar, combien de salat ala al-Nabi al-Yom ? Kam salayta ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mia, akthar ou aqal ? Aqal. Si on n'a pas lu au moins 100 durouds, c'est-à-dire 100 salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam un vendredi, c'est moi qui le dis, hein, c'est khassara. C'est khassara. C'est un vendredi, je voulais dire un vendredi noir. C'est un vendredi où on n'a pas obtenu quelque chose d'énorme. Quand on fait salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Rabbul Izzah nous envoie ses salutations à lui sur nous. Et 10 bonnes actions par durud, par salat al-Nabi, 10 péchés effacés. Celui qui a lu 100 durud, subhanallah, ça fait combien de péchés effacés? 1000. Et 1000 péchés, ça correspond à combien de jours? Allah seul le sait. Ça peut faire peut-être une semaine, ça peut faire peut-être quelques jours. Mais imaginez, si je suis moi assidu à ces adhkar, je suis gagnant. Donc, quand on analyse du coup notre manquement de nos prières, si on demande à cette assemblée, est-ce que tout le monde, il y a un doigt vers vous, il y en a 4 vers moi. Donc je me pose la question à moi en premier. Qui a fait cette semaine la salat de Fajr en Jama'a, les 7 jours, Usbu'a Kamil? Qui a fait au premier rang Takbir Oula avec le imam? Là on se rend compte qu'il y a un décalage entre l'idéal de pratique qui a atteint son paroxysme avec les sahaba, c'est la perfection de la pratique, ou un juste milieu de pratique, et notre pratique à nous, que souvent nous considérons comme étant correct. Nous sommes très fiers de nous. Vous le saviez, nous sommes tous persuadés que nous sommes de bons croyants et de bons musulmans. L'erreur, c'est quoi? C'est que nous avons oublié les modèles. Tant que on ne peut pas se comparer à un modèle, on ne saura jamais si on est bon ou on n'est pas bon. On ne fera que constater ce que nous accomplissons. Ah ben tiens, je fais ça. Et on va du coup se comparer à ceux qui sont plus éloignés de la religion. Moi je viens à la prière, mais le frère là-bas il vient jamais. Moi je respecte telle chose, lui il ne respecte pas. C'est-à-dire on va se comparer aux personnes qui se sont éloignées plus d'Allah que nous. Alors que nous avons besoin de nous comparer aux sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Et du coup, essayer de voir comment les sahaba abordaient un ramadan. Comment vivaient-ils un ramadan? Et comment sortaient-ils d'un ramadan? Et comment est-ce qu'ils continuaient à vivre les lumières du ramadan, d'un ramadan à l'autre? Jusqu'à ma feuille s'envole, tellement c'est puissant. Comment est-ce qu'ils continuent à vivre le rahma, la baraka, le maghfira, le tawfiq, ce qu'on appelle le istiqama, d'un ramadan à l'autre? Et là on se rend compte que eux, ils avaient profité du mois béni. À notre niveau, difficile de comparer. Irrespectueux, hein, Ibrahim, irrespectueux de comparer notre Ramadan avec le Sahaba, oui ou non? Mais, dans sa grâce et sa clémence, Allah nous accorde dans le mois de Ramadan les mêmes récompenses qu'il accorde aux Sahaba. Allah nous accorde les mêmes chances de nous rapprocher de lui qu'il avait accordé aux Sahaba. Ainsi donc, ikhwani fillah, ce mois de Ramadan, et j'aime bien utiliser cet exemple qui est très simple, c'est une bouée de sauvetage. Ce Ramadan, quand il descend du ciel tous les ans, avec Ru'yatul Hilal, quand on voit la lune et que le Ramadan est annoncé, il faut s'y accrocher. Il faut s'y accrocher. Il faut se dire que cette corde-là, ça me permet de survivre spirituellement. Autrement, je suis mort. Je suis noyé. Et mes actions, Allah seul sait quelle est la valeur de nos actions. Qu'est-ce que l'imam a lu au premier rak'at? Qu'est-ce que l'imam a lu au second rak'at? Qu'a-t-il lu Salat al-Maghrib? Est-ce qu'on était concentré? Est-ce qu'on a éprouvé de la dévotion? Est-ce que lorsque j'ai posé mon front sur le sol en lisant Subhana Rabbi al-A'la, est-ce que j'ai ressenti la grandeur d'Allah? Et est-ce que j'ai ressenti que je suis au sol, que je ne suis, que je suis rien? Et que je me remets à Allah al-A'la, celui qui est au-dessus de tous. Est-ce que j'ai ressenti la lumière de la salah? Wallah musta'an, nous sommes très loin de ces réalités de la foi. Mais, malgré tout ça, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré une époque où la pratique est devenue complexe, difficile, malgré ce contexte, Allah Azza wa Jalla nous gratifie et continue à nous donner ce qu'il a donné aux croyants depuis que le mois de Ramadan a été révélé, c'est-à-dire en l'an 2 de l'Hijra à Madina Munawwara. Les savants disent, le fait que à travers les siècles, nous continuons à jeûner le mois de Ramadan, c'est une preuve de plus. Qui veut compléter? C'est une preuve de plus de l'amour d'Allah pour cette umma. Comment ça? Allah Rabbul Izzah dit le Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Avec comme objectif, la'allakum tattaqun. Ce verset, Allah Rabbul Izzah nous rappelle, et on va entendre ce verset en boucle, hein, plus les jours avancent, alhamdulillah. Ça commence à faire émerger un peu le shawq, l'envie du Ramadan. Allah Azza wa Jalla nous rappelle qu'il nous a prescrit le jeûne. Et quand Allah dit, nous rappelle que c'est lui qui a prescrit, ça vient d'Allah. Tout comme la salah, elle vient d'Allah. Comment les musulmans avaient-ils vécu l'obligation de salah? C'était comme un Eid. C'était un moment de joie. La salah fait partie, comment on appelle la salah? Ça fait partie des cadeaux du voyage nocturne. Oui ou non? Là, vous vous rappelez de votre dernier discours 27 Rajab? A-t-on rapidement tourné la page et jeté le livre? Et on est prêt à prendre le livre du 15 Shaban et à venir en masse à écouter. Et ensuite on fermera le livre, on le jettera. Et ensuite viendra le Ramadan, et on y sera 30 jours. Ensuite on refermera le livre, et on le jettera. Comment ça? C'est comme ça qu'on avance? Est-ce que c'est ça l'istiqama? Est-ce que c'est ça le ruh du din? Est-ce que la religion c'est une question de période et de saison qui se répète, auquel on répond présent, et entre les saisons on s'absente? Est-ce que la religion, est-ce que la relation avec Allah, c'est une question, ça se limite à un rituel? Tu es présent 27e Rajab, tu es présent 15 Shaban, tu es présent le mois de Ramadan, et en dehors de ça, c'est ma vie, c'est mon boulot, ce sont mes préoccupations, mes loisirs, ma conception de la vie. Est-ce que ça correspond à la pratique des Sahaba? Les Sahaba, ils avaient vécu, « Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ». Ma vie, j'appartiens à Allah. « Wa ma khalaqtu al-jinna wa l'insa illa li ya'budun ». Allah n'a créé les djinns et les ins et les êtres humains, si ce n'est pour l'adorer. Les sahaba, ils l'avaient intégré. Nous n'arrivons pas encore à intégrer. Qu'est-ce qui fait que, quand un péché se présente à moi, je réfléchis. Enfin, si je réfléchis, c'est déjà bien. Si je réfléchis, c'est-à-dire que la foi, le iman, est en train de lutter contre les waswas, en train de lutter et essayer d'avoir raison. Mais quand je chute et que j'écoute mon nafs et j'accomplis le péché, c'est que je n'ai pas compris que j'ai été créé pour adorer Allah. Je n'ai pas compris qu'Allah est au-dessus de moi, me voit, m'entend, sait ce qu'il y a dans mon cœur, que les anges sont là, en train d'inscrire les actions bonnes comme mauvaises. C'est-à-dire qu'on a fait l'impasse, ikhwan et fillah, sur la conception de la religion, sur le relationnel, ou la relation entre makhlouq et khaliq, entre la créature et son créateur. Et on s'est focalisé sur des micro-événements. Si je suis là 27 Rajab, j'ai gagné. Si je suis là 15 Shaaban, j'ai gagné. Si Ramadan, j'étais là régulièrement, c'est bon. Mais en dehors de ça, il y a la vie religieuse et la vie mondaine. Si nous avons appliqué cette séparation entre la vie mondaine et la vie religieuse, c'est qu'on n'a pas compris wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C'est qu'on n'a pas compris wa ma hayya wa ma mati lillahi rabbil alamin. C'est qu'on n'a pas compris wa a'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. C'est qu'on n'a pas compris wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ce verset qu'on n'a pas traduit, craignez ce jour vous serez ramenés vers Allah. Ce sont des versets clés. Vous les prenez, vous les intégrez dans votre cœur, ça c'est votre guide vers le sirat al-mustaqim, vers le droit chemin. Avec ça, vous n'avez plus besoin de grands discours, de grandes conférences. Le prophète sallam ne s'attardait jamais dans les interventions. Ce qu'on est en train de faire là, c'est déjà excessif. Quand le prophète vous disait une chose, il se mettait debout près du mimbar, il parle de sahaba quelques instants. Le message passé, cœur pur, une langue pure, sincère, des cœurs purs. Isaba, les paroles touchaient leur cœur, ils mettaient en pratique. Nous sommes malheureusement éloignés de cette conception, cette compréhension même du ibadah, du sens même du ibadah, at-tadhallul wal khudu' lillah, et malheureusement c'est vrai. Je vous pose une question. Combien de personnes pensez-vous voir ici lors de la nuit, enfin, lors du programme d'explication sur le 15 Shaaban? La masjid sera pleine. Oui ou non? C'est comme ça, c'est partout comme ça. Qu'est-ce qui fait que là on parle de préparation de Ramadan et on ne remplit pas la salle? C'est que nous fonctionnons par tradition. On a hérité de cette tradition qu'à Shaaban tout le monde vient, ben on vient. Alors que le but, quand on fait une explication sur le 15 Shaaban, c'est pour comprendre que c'est une nuit qui a une vertu, qui est Hassan, de le hadith est Hassan, la nuit de pardon. On demande pardon à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'on va se déplacer massivement pour préparer une nuit. Et là, quand il s'agit de préparer un mois, 30 jours ou 29 jours, il n'y a pas la même approche. Ça veut dire qu'il y a un décalage. Ce n'est pas une critique, c'est une autocritique. On a besoin de revoir notre conception de la religion. Pourquoi cette longue introduction sur la conception de la religion? Parce que il n'y a pas un musulman qui va dire que t'es zut, t'es passe pas Ramadan, il y approche. Non, personne ne dira ça. Je sonde un peu les élèves de la madrasa, même ceux qui sont les moins brillants, quand on parle de Ramadan, ils sont contents, heureux. Oui, la carême y arrive, ils sont contents. Mais les gens sont heureux d'accueillir le Ramadan pour différentes raisons. Et leur approche est différente. Il y a l'accueil du Ramadan traditionnel. Traditionnel, c'est qu'avant le mois béni, on va préparer, on va remplir le congélateur. De samoussa, de nem et d'ainsi de suite. On commence à dresser la liste des menus. Là, il fait halim, là, il fait karikichli, avec papa, poulet seri. Bref, il y a une organisation qui se met en place, selon les cultures. Ça, c'est une approche. Là, il mange karikichli, pour pas dire, seri. Si. Ma vie, tout de suite, le regard. D'accord. Avec ou sans papa? Le vrai traduction, c'est avec papa. Bref. Il y a l'approche culturelle. Il y a l'approche purement fiqhi, ce n'est pas péjoratif, hein? C'est l'approche fiqhi, c'est-à-dire l'approche par la jurisprudence. Au revoir Moïsab, rappelle-moi un coup, le masla. Si par exemple, j'ai fait le gargarisme et qu'un petit peu de l'eau l'a avalé, c'est-à-dire le masla que tu demandes tous les ans et que tu oublies tous les ans. Si un peu d'eau est rentré dans le nez, d'accord? Si il veut mettre goutte dans les yeux, d'accord? Si il veut mettre goutte dans mon nez, là on a besoin de mettre goutte partout. Si il veut mettre goutte dans mes oreilles, ok, s'il veut, et après on restera poli pour le reste. Il a réalisé Ali. Approche fiqhi de jurisprudence. Est-ce que c'est mal? Non, on a envie de bien faire. Mais c'est-à-dire, on est devenu, on prend beaucoup de précautions sur la façon de jeûner, ce qui est bien. C'est comme une personne qui pose des questions sur les masa'il fiqhi concernant la salat. Comment est-ce qu'on pose les mains? Comment est-ce que la main droite vient sur la main gauche? Comment est-ce que les doigts encerclent le poignet? Qu'est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on peut lire moins de 3 versets? Les masa'il, ce qui est bien. Au moins ta prière, elle est bien accomplie. Ensuite, tu as au-dessus de tout ça, la personne qui va bien sûr transiter par l'approche fiqhi, jurisprudence, il connaît les masa'il, il ne se trompe pas, mais également l'approche spirituelle. L'approche spirituelle, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'Allah nous a accordé le jeûne? Pourquoi est-ce qu'Allah nous a accordé 5 salats qui se répètent? Pourquoi 5 salats? Pourquoi 1 mois de jeûne? Pourquoi 1 seul hajj? Après notre pratique, ça ne va pas dépendre de notre compréhension. Non, la pratique, elle doit être là. Mais le croyant intelligent, c'est celui qui arrive à percevoir les objectifs à travers le tashri'. Quand Allah nous accorde quelque chose, comme on l'a dit, Allah prescrit le jeûne. Allah a accordé les 5 salats, par exemple, comme un cadeau. C'est ce qu'on appelle, c'est là qu'on s'est éloigné un peu du sujet. Allah a donné au Prophète sallallahu alayhi wa sallam un cadeau lors du voyage nocturne. Ce sont les 5 salats. Pourquoi un cadeau? Parce que ces prières, c'est un lien permanent, régulier, journalier entre nous et Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, le croyant, entre les prières, si il accomplit des péchés, ben la prière suivante, les péchés sont inchallah effacés. Et cette prière doit lui donner suffisamment de lumière et de force pour tenir spirituellement jusqu'à la prochaine prière, c'est-à-dire espacer de 3 heures, de 4 heures ou de 5 heures. C'est la survie spirituelle au quotidien. Le Ramadan, c'est la survie spirituelle annuelle. Ainsi, en recherchant l'objectif du jeûne, nous retrouvons Kama Kutiba. على الذين من قبلكم أنوار لعلكم تتقون. L'objectif c'est quoi? Atteindre la piété. Et si on arrive à التعلي, la raison pour laquelle Allah nous a prescrit le jeûne, ça répond à tout ce qu'on a expliqué depuis le début de l'introduction. Depuis 22 minutes on parle, on explique nos manquements dans notre relation avec Allah. On explique le fait que nous nous focalisions sur des rituels, sur des événements, sur des pratiques qui nous rassurent, mais qu'on n'arrive pas à extraire, à pratiquer, à trouver la spiritualité dans nos a'mal, dans nos prières et ainsi de suite, comme on a expliqué. Maintenant, quand nous voyons que l'objectif c'est la'allakum tattaqoun, on comprend que l'objectif du jeûne c'est de devenir pieux, c'est de vivre la piété au quotidien. Ainsi, le croyant qui a pu développer sa piété, il règle tous les problèmes. Tout ce qu'on a cité comme manquement, comme erreur d'approche, comme erreur de méthodologie de la pratique de la religion, tout sera réglé à partir du moment où il y aura la'allakum tattaqoun, à partir du moment où la taqwa, la piété, va pénétrer le cœur de l'homme. Un homme qui a la crainte d'Allah, c'est un homme qui obligatoirement avancera sur le salat al-mustaqim, sur le droit chemin. L'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, la personne qui fasse un péché hésite et puis chute, ça c'est caractéristique d'un manque de taqwa. On veut régler le problème de notre faiblesse face au péché, on a la taqwa. La piété, ça règle ce problème. On veut régler l'autre problème qu'on a cité tout à l'heure, notre assiduité ou non à la prière de Fajj, au premier rang, ainsi de suite, on veut régler notre problème de salat, la solution c'est la piété. La solution c'est pas un grand discours sur les vertus de la prière. Oui, il y a de ça, mais si le cœur est habité par la crainte d'Allah, il y a un changement radical. Le cœur est convaincu, le cœur est persuadé et le cœur ordonnera au corps d'agir correctement. Ainsi, la bonne nouvelle, c'est si nous accomplissons notre moi avec ferveur, engagement, sincérité, application et espoir de rétribution et intention de changement intérieur, nous en ressortirons grandis et avec la piété. Et cela nous permettra de renouveler notre relation avec Allah pour toute l'année. Vous me suivez? Quand on sort d'un mois béni avec cette ferveur spirituelle, normalement, ça nous permet de réactualiser notre relation avec Allah. Et cette relation avec Allah, elle trouvera vraiment ses fruits le premier Shawwal, après le Ramadan. Il y a que quand les shayatines sont de retour, je n'ai pas fait d'introduction sur ce qui se passe, les shayatines sont emprisonnés, ainsi de suite. Quand les shayatines sont de retour après le Ramadan et qu'ils t'appellent vers le mal, ben non, ça ne marchera plus. Pourquoi? Parce que tu t'es hyper renforcé durant un mois. Quand il s'agit, après le mois béni, de venir à la mosquée pour le Fajr un dimanche, il n'y aura aucun mal. Même si la masjid elle est beaucoup moins remplie que durant le mois béni. Pourquoi? Parce que la piété maintenant habite ce cœur. Et donc ce cœur, il vit pour Allah. Ainsi donc, ikhwan fillah, nous sommes là, enfin tout ça c'était pour dire pourquoi on est là. Nous sommes là pour reprendre ce que Ali a dit, ce que nos frères ont dit, parce que nous sommes conscients que nous allons vivre un mois béni. Et on a envie de savoir comment se préparer. Parce que ce mois, il vient pour tout le monde. Il vient pour tout le monde. Que nous sommes prêts, que nous soyons prêts ou non, le mois, il est là. C'est un invité qui vient nous rendre visite. Maintenant, comment est-ce qu'on va le recevoir? Comment est-ce qu'on va en profiter? C'est là le décalage. Je vous pose une question. Et on va faire ce cours-là demain, on va poser cette question aux enfants, aux élèves demain matin. On va leur demander, quand on parle de Ramadan, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Des mots, Mohamed. Ramadan égale Taraweh, oui. Anas, Ramadan égale hein? Le jeûne. On est d'accord. Anwar, Ramadan égale les actions qu'on ne retrouve pas en dehors du mois de Ramadan. Hein? Les tirs Coran, on lit toute l'année. Enfin, normalement. Je veux dire, ce qui est spécifique, Salat al-Tarawih, oui. Parce qu'on ne fait pas ça en dehors de l'année. D'accord? Ramadan égale Suhur, le Sehri, oui ou non? Tout à fait. Ramadan égale. Ah oui, bien sûr, là oui. Iftar. D'accord? La rupture du jeûne. C'est-à-dire que quand on dit Ramadan, on se voit quoi? En tant qu'être humain, on se projette. Et on se voit en train de prendre le suhur. Quand on dit Ramadan, on se voit tous dans la mosquée en train de partager le repas de rupture du jeûne. Et il y a madja dedans, oui ou non? Bien sûr, il y a plaisir dedans. Il y a une ambiance dedans, une ambiance fraternelle. Quand on parle de Ramadan, on se voit en train de démarrer Alif Lam Mim Dhalika al-Kitab wa la rayba fihi et suivre tout le Coran. C'est-à-dire, on a axé notre conception du Ramadan autour de ses actions, ce qui est tout à fait correct. Maintenant, et c'est là qu'on a besoin de toucher la fibre un peu plus intérieure dans le cœur du croyant, essayons de concevoir notre Ramadan à travers ce hadith. Et après, on va s'arrêter. On a commencé à combien donc? 20 minutes? On s'est dit donner 45 minutes. Je n'ai pas chronométré malheureusement, je ne peux pas vous dire. Essayons, en plus hein, de suhur, de sehri, Iftar, rupture du jeûne, et Salat al-Tarawih, en plus des actions qu'on accomplit toute l'année et qu'on fait un peu plus avec le Coran et ainsi de suite, essayons maintenant d'avoir une conception plus profonde du mois béni basée sur les points que je vais vous citer. Qala alayhi salatu wassalam, atakum shahru ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, le sahaba, le mois de Ramadan est arrivé. Shahrun. Non, shahru khayrin wa baraka, un mois rempli de bénédictions. Premièrement, ce que je dois essayer d'intégrer, c'est que c'est un mois de baraka, un mois de khayr, un mois où tout ce qui se passe est bon. Tout ce qui arrive durant ce mois béni, c'est profitable aux mu'mines. C'est un mois où Allah nous accorde beaucoup de ses bénédictions. La baraka, c'est quelque chose qui est invisible, qui n'est pas palpable, ça ne se mesure pas, ça ne s'achète pas, ça ne s'échange pas, ça ne se trouve pas. La baraka, c'est quand Allah t'accorde sa nusra. Tu trouves la baraka dans le temps, tu trouves la baraka dans ta santé, la bénédiction d'Allah dans tout ce que tu accomplis. La baraka, tu la trouves également dans tes prières, dans ta concentration, dans ta dévotion. Tu trouves dans ta lecture du Coran, dans la qualité de ta lecture. C'est un mois de baraka. Donc, quand je comprends que c'est un mois de baraka, je vais être à la recherche de cette baraka. Ainsi, on doit demander dua maintenant, Ya Rab, accorde-moi le maximum de bénédictions durant ce mois béni. On continue. Yurashikumullahu fihi birrahma. Dans ce mois, Allah vous couvre de sa clémence, de sa miséricorde. Bien que toute l'année, toute notre vie, Allah a pitié de nous, oui ou non? Allah est clément, miséricordieux, Rahman, Rahim. Mais durant ce mois béni, Allah a encore plus de pitié, d'amour, d'affection pour ses serviteurs. Donc, dans ma tête, Ramadan, c'est mois de bénédiction. Ramadan, c'est mois de clémence et de miséricorde. Quand j'intègre maintenant la deuxième étape, que c'est un mois de clémence, je vais faire tout ce que je peux pour bénéficier de la clémence d'Allah qui est distribuée, qu'Allah accorde à tout le monde. Et demandons doua, Ya Allah, dans ce mois, accorde-moi un maximum de ta rahma. On continue. وَيَغْفِرُ فِيهِ الْخَطَايَا. Et Allah pardonne les péchés. Et Allah pardonne les péchés. Ainsi, dans ma conception du Ramadan, c'est le mois où Allah pardonne mes erreurs. Et dites-moi, ou alors que chacun réfléchisse à voix basse et que chacun scrute au plus profond de son âme et de son cœur et on se demande et on essaie d'analyser combien de péchés avons-nous reproduits depuis le Ramadan 2017. Combien d'erreurs, combien de manquements par rapport aux bonnes actions et combien de péchés accomplis. Combien de fois on avait promis à Allah, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est la dernière fois, jamais plus, je vais recommencer tel péché. Mais quelque temps après, on est retombé dans le péché. Quelque temps après, on se rend compte qu'on a trahi, on a menti, on a trahi notre engagement, on a trahi cette promesse qu'on avait faite avec Allah. Quand vous faites preuve, quand vous mentez, ou alors il y a une trahison envers une personne, un être humain, une fois, la personne peut te pardonner. Deux fois, franchement, la personne, si elle est vraiment clémente, elle te pardonnera. Mais à un moment donné, quand ça se répète et qu'on promet des choses à des personnes et qu'on va à l'encontre de nos promesses, à un moment donné, la personne ne nous fait plus confiance. Que ce soit dans le monde professionnel ou relation de couple, quelles que soient les relations avec les créatures. Mais quand il s'agit de notre relation avec Allah Azza wa Jal, Allah est tellement Rahman, il y a tellement de Rahma qui descend, il y a tellement de Baraka qui descend, qu'Allah Rabbul Izzah est tellement, nous aime tellement qu'il pardonne nos péchés. Ainsi qu'on réfléchisse sur nos péchés cumulés depuis l'année dernière, et chaque personne de cette assemblée a grandement besoin de se faire pardonner. Si une personne ici estime que depuis l'année dernière je n'ai pas fait aucun péché, qui se lève. Moi, je ne me lève pas. Impossible. Parce que nous restons des êtres humains. Et Allah connaît nos faiblesses. Mais ce mois, c'est le mois où, par excellence, nous trouvons le pardon d'Allah. Maintenant, avant de continuer, je veux juste évacuer une pensée erronée, une approche erronée. On appelle la shubuha. Parmi les shubuhat, les mauvaises compréhensions du mois béni, une personne peut se dire, donc, si j'écoute bien ce qu'il dit, toute l'année, je vais faire le zina, l'adultère, je vole, je fais tel péché, je vais en boîte de nuit, je bois de l'alcool, j'écoute la musique, je fais tout ça, et je sais pertinemment que dans quelques mois, je vais rentrer dans la grande machine à laver de Ramadan, et je vais en ressortir net, clean, propre, avec du soupline, et très doux donc du coup. Vous croyez que ça marche comme ça? Il n'y a pas d'incohérence. Il n'y a pas d'incohérence ni d'injustice dans la façon qu'Allah traite ses serviteurs. Tout est cohérent. Comment yaghfiru fihi al-khataya? Comment est-ce qu'Allah pardonne les péchés? Est-ce qu'Allah pardonne les péchés de n'importe qui? Allah Azza wa Jal est pardonneur, mais il pardonne aux personnes qui savent comment demander pardon. Et vous savez, Ishaq, parmi les conditions pour obtenir le pardon d'Allah, il faut être sincère, il faut regretter le péché et il faut prendre la résolution de ne plus le recommencer. C'est ce qu'on appelle Tawbatun Nasuha. Si tu réunis ces conditions, Allah te nettoie de tes péchés. Maintenant, la personne qui accomplit des péchés, non, pardon, qui demande pardon, et dans sa tête, il sait pertinemment qu'aux deux Shawwal, il va recommencer les mêmes choses, après Allah seul sait. Hein. Mais les conditions ne sont pas respectées. Donc, pour revenir au hadith, on intègre que c'est le mois où Allah pardonne nos péchés. Wa yastajibu fihi du'a. Et Allah accepte les du'a. Je dois intégrer le fait que dans ce mois, Allah accepte mes du'a. Et chaque personne présente dans cette assemblée attend une ouverture de la part d'Allah. Que ce soit pour sa santé, pour sa stabilité psychologique, pour sa vie familiale, pour un éventuel mariage, pour son travail, pour ses enfants. Nous savons tous quels sont nos besoins, oui ou non? Il n'y a pas une personne qui peut dire « Je suis 100% heureux, je n'ai besoin de rien. » Même si tu as tout, matériellement, tu as tout. Toutes les conditions sont réunies. Marié, des enfants, voiture, à la maison, travail, en bonne santé, tu as l'impression que tu as tout. Mais tu ne penses pas, est-ce qu'on ne pense pas qu'on a grandement besoin d'Allah pour d'autres choses? Bien sûr. Ce que nous demandons dans chaque salat, ihdina as-sirat al-mustaqim. Par exemple, n'est-ce pas là la demande la plus forte, la plus importante? Oui, sans le moindre doute. Ainsi, wa yastajibu fihi du'a, on doit intégrer le fait que durant ce mois, je dois demander un maximum de du'a parce que Allah a promis que durant ce mois, il accepte les du'a. On a compris? C'est pas juste écouter un texte. Les doigts sont acceptés durant ce mois. C'est écouter, intégrer, comprendre et agir en fonction de l'information. Ça, c'est la réaction intelligente. Ibrahim, on est d'accord? Différence entre celui qui écoute le ta'lim, les vertus du Ramadan, et qui connaît presque par cœur. Quand la personne lit, il connaît à l'avance ce qu'il va lire. C'est une bonne action. Hein? C'est une bonne action que d'écouter les hadiths. Mais l'intelligence du croyant, c'est de la pratique. La capacité à profiter du texte nabawi, prophétique, l'intégrer et transformer ça en amal, en tatbir, en application, en pratique. Ainsi, nous savons qu'Allah accepte les du'as. Donc, on va faire le maximum d'efforts. Maintenant, la question qu'on se pose, parce qu'il faut qu'on clôture. La question qu'on se pose, à quel moment on va faire tarkiz, on va faire plus d'efforts dans les du'as à Mohamed, de le Ramadan. Quels sont les moments propices pour les du'as? Il y en a deux qui sont exceptionnels. Exactement, on a entendu. Le suhur. Pourquoi au moment du suhur? Akhir thuluth al-layl. Dernier tiers de la nuit. Dans le dernier tiers de la nuit, Allah Azza wa Jal descend. Kama yaliqu bihi Azza wa Jal. Comme cela appartient à Allah, laysa kamithlihi shay. Et Allah demande, est-ce qu'il y a des personnes qui, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Y a-t-il des gens qui ont besoin de mon pardon? Y a-t-il des gens qui ont besoin que je leur accorde? Donc le du'a de le dernier tiers de la nuit, c'est de l'or toute l'année. Dans le mois de Ramadan, c'est encore plus fort. Et le fait qu'Allah nous ait prescrit le suhur, ça nous permet d'être réveillés lors du dernier tiers de la nuit. Peut-être si je suis faible spirituellement, toute l'année, je me réveille que pour Fajr. Et si je suis très faible, je mets mon réveil, je regarde, le soleil se lève à 6h, en ce moment, quel est le soleil? 6h32, à peu près, non? 6h32. Donc, je me réveille à 6h22. Le temps de faire mes ablutions, je fais ma salat, tac, mission accomplie. Ça, c'est vraiment les cas les plus graves. Après, il y a Pierre, celui qui ne se préoccupe même pas de la salat. Mais dans le mois béni, sachant que tout le monde prend le suhur, tu es réveillé de le dernier tiers de la nuit, même si tu n'es pas sur ton tapis de prière, même si tu n'as pas fait les ablutions, même si tu n'es pas en train de faire le tahajjud, ce qui serait l'idéal bien sûr, mais même s'il n'y a pas tout ça, tu es présent le dernier tiers de la nuit, lève tes mains, demande à Allah, va dans ton balcon, regarde le ciel, regarde le ciel. Ibrahim, plus personne ne regarde le ciel. Plus, toi, tu regardes, je sais. Plus personne ne regarde les étoiles. Plus personne ne regarde la lune. Plus personne n'admire la beauté de la création d'Allah. Fais-le. Fais-le. Regarde le ciel. Regarde l'immensité de la création d'Allah. Lève les mains et dis, oh Allah, je suis là. Merci. Merci Allah, tu m'as choisi pour être là, présent. Ya Allah, ne me prive pas. Ne me prive pas de ce que tu accordes à ceux que tu aimes durant ce mois béni, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs. Même si j'ai manqué à mes engagements. Ya Allah, aie pitié de moi. Et pourquoi on va demander à Allah d'avoir pitié de nous? Parce que dans ce mois, Allah va sa rahma. Pourquoi on va demander avec conviction? Parce que les doigts sont acceptés et parce qu'on est dans le dernier tiers de la nuit. L'autre moment, c'est le moment de rompre le jeûne. Le prophète alayhi salat wa sallam nous rappelle l'important de ce moment. Et avant de rompre le jeûne, le jeûneur a un doigt qui est accepté. Donc, ikhwan fillah, idéalement, c'est de commencer à travailler un peu le jeûne durant ce mois de Sha'ban. Car le prophète jeûnait abondamment durant le mois de Sha'ban. Ainsi, il nous reste 3 semaines. Si on peut consacrer nos lundis et nos jeudis, et idéalement le 13, le 14 et le 15 à jeûner, profitons de ces moments pour commencer à demander doua lors du suhur et de la rupture du jeûne. Quel doua demander? Demandez, Ya Allah, durant ce mois, accepte-moi. Guide mes pas. Guide mon cœur. Oriente-moi vers toi. Fais-moi trouver le lazza, le halawatul iman, la douceur de la foi. Ya Allah, que lorsque je prie, que je trouve la lumière et que mon cœur s'accroche, je trouve la concentration. Que quand je lis le Coran, que mon cœur se met à trembler. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Que ma foi augmente. Ya Allah, guide-moi, donne-moi la possibilité de te demander pardon, de me rapprocher de toi et accorde-moi la fermeté. Istiqama. Que chaque bonne action que j'accomplis, donne-moi la possibilité de rester ferme sur ces bonnes actions. Que cela puisse me permettre de changer totalement ma vie. Donc, 4e point, وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاءِ. Et ensuite, وَيَنْظُرُ فِيهِ لَا تَنَافُسِكُمْ وَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَ فَادُّ فِيهِ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا. Par exemple, dit, et Allah regarde les efforts que vous faites et Allah en est fier. Allah vous vante auprès des anges et donc, par exemple, dit, faites le maximum d'efforts. Ça veut dire que quand un croyant va consacrer ce Ramadan à beaucoup de bonnes actions, Allah est fier de nous. Est-ce que ce n'est pas déjà une récompense de savoir qu'Allah nous aime, qu'Allah est fier de nous? C'est déjà une consécration. Ainsi donc, ikhwan fillah, on va s'arrêter à là. Pour une prochaine fois, je pense qu'on fera encore une séance. On verra quand est-ce qu'il y a un vendredi de disponible, inshallah. On va travailler sur certains points. Les résolutions. Nos résolutions, ça concerne premièrement, ça on développera, le taouba. Multiplication des bonnes actions. La patience et le recul face au péché, et le tazkiyatun nafs, la purification intérieure par le biais du jeûne. Et on verra ensuite, point suivant, les erreurs de beaucoup de croyants lors du mois béni. Et on citera le fait de, entre guillemets, perdre son temps, c'est des futilités, de ne pas considérer, de ne pas donner de l'importance au premier jour et d'attendre quelques jours pour entrer dans le rythme. Mais si tu attends 3 jours pour bien comprendre, tu as déjà perdu 3 jours, et ça, c'est pas possible. On va voir également le danger du sentiment du devoir accompli. Ne jamais penser que c'est bon, là on a bien avancé. On va voir l'autre, parmi les dangers, le gaspillage, surtout le gaspillage alimentaire. On va voir également l'importance du respect de la masjid dans le mois béni. Et le respect des voisins. Quand tout le monde vient, il ne faut pas que ça se transforme en une fête foraine à l'entrée et à la sortie des masajid et ça perturbe les voisins. On va voir un peu tout ça, inshallah, et ensuite on essaiera de voir quelques, pas des masahil, mais quelques règles spirituelles concernant justement le suhur, la rupture, le sehri, la rupture du jeûne et la salat de tarawih et quelques autres actions afin que on arrive, inshallah, à les accomplir pas uniquement de façon précise, mais avec engagement et spiritualité. Qu'Allah Azza wa Jal nous accepte et que sa clémence, Inch'Allah, pénètre nos cœurs et qu'Allah nous donne la possibilité de vivre ces mois, ces jours de Sha'ban qui restent avec beaucoup de piété et nous donne à tous tawfiq de ne pas laisser un lundi ni un jeudi de ce mois de Sha'ban sans qu'on soit présent parmi les jeûneurs, Inch'Allah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.